Donc, il s'agit d'un procès.
Je vais commencer par vous demander votre nom.
Votre nom.
Votre âge, si ce n'est pas indiscret.
Votre âge.
Votre profession.
Un signe distinctif.
Que pensez-vous de l'admiration?
En quelle année auriez-vous...
Que pensez-vous votre de définition du bonheur?
Votre définition du bonheur.
Quand je vous dis à le mot... À qui avez-vous pensé aujourd'hui?
Votre plus beau ciel.
Comment réagissez-vous à l'expression
« papier »
de votre
société? Votre définition du bonheur.
Votre nom.
Mermet.
Votre prénom.
Daniel.
Votre âge.
70.
Votre signe distinctif.
L'hésitation.
Un générique de radio qui vous a marqué. Ou un début d'émission.
Ben, le mien. Là-bas, si j'y suis.
La bande son de votre adolescence.
Adolescence. La bande son de l'adolescence. La bande son de l'adolescence. C'est-à-dire une émission de radio. La bande son de l'adolescence. Ce serait Prévert. Ce serait adolescence. Prévert, Brassens. Et adolescent, j'écoutais moins de radio que dans mon enfance. Donc voilà, l'univers sonore, c'est Brassens, c'est mon temps. Non, c'est aussi pour ceux qui aiment le jazz sur Europe numéro 1, c'est l'après-midi, Franck Thénault et Daniel Philippaki. Voilà.
De quelle nuit êtes-vous le passager?
Les Navier Night.
Une question super banco.
Super banco? Une question pour le super banco? Je pose moi une question sur le super banco. Quelle est la date de naissance à la minute près de la radio publique?
Et une réponse super banco.
20 août 1944, 20h31.
L'air que vous respirez.
Ici, c'est un air que j'aime bien. C'est un air breton. J'adore cet air-là, cette atmosphère-là de pluie, de vent. J'adore ça. Je vais à Belle-Île depuis 50 ans. Voilà.
Un moment d'égarement radiophonique.
C'est tous les jours entre 15h05 et 15h40. On essaye d'égarer la pensée des auditeurs par rapport à l'idéologie dominante. Et on lutte contre ça, donc c'est un égarement.
La dernière fois que vous êtes allé faire une radio.
Faire une radio, c'est-à-dire répondre à des questions, faire une radio. Mais moi, je ne fais pas de radio au sens où le font ceux qui font leur promo. Je ne suis pas en promo. Donc je fais de la radio, mais je ne fais pas des radios. C'est vrai que c'est très humiliant quand on voit des gens qui sont en promo et qui ne savent même pas à qui ils parlent, et que les gars ont préparé leur micro, leurs questions, ont lu le livre, ont vu le film. Les mecs ne savent même pas à qui ils parlent. Ils appellent ça faire des radios. C'est très humiliant. Et j'ai fait une émission que j'ai jamais diffusée encore, je la diffuserai un jour, où je montre qu'on peut faire une émission d'une heure avec quelqu'un dont on n'a pas lu le livre et qu'on ne connaît pas. Je l'ai fait, je l'ai enregistré, j'ai fait venir un gars avec son livre et j'ai découvert son livre en commençant, en lui demandant alors pourquoi ce titre, pourquoi, et en retournant le livre, en regardant quelques lignes sur sa biographie, en lui posant des questions comme ça. J'ai montré qu'on peut faire, j'appelle ça la radio boniche, la radio nulle. Et parfois, France Inter s'en rapproche de cette radio nulle. Je pense que le mot le plus prononcé sur France Inter, la phrase la plus prononcée sur France Inter, c'est « Et je rappelle le titre de votre livre ». C'est-à-dire que c'est la radio extrêmement facile où on fait venir des gens qui ont écrit des livres, qui... qui présente un film, etc. Ça remplit des heures d'antenne. Et c'est un gâchis pour la radio. On peut faire de la radio autrement. Je crois qu'on doit faire de la radio autrement que par la promotion comme ça d'objets culturels.
Et si le masque vous plumait?
Le masque et la plume, c'est la plus vieille émission qu'on ait et qui, je crois, j'espère pas me tromper, vient du Club d'essai, a été né avec le Club d'essai qui était 37 rue de l'Université à Paris et d'où est né nombre d'émissions de radio et nombre d'animateurs de radio. Et ça a été un berceau. C'était un berceau de la radio publique et de tout le côté écriture radiophonique, côté Pierre Schaeffer, côté atelier de création radiophonique, et jusqu'ici. Là, ici à Brest, c'est la suite de cette histoire qui est née le 20 août à 20h15. 31 au 37 rue d'Université et par des gars qui faisaient de la résistance, des résistants qui ont, après la chute de Radio Paris s'est arrêté et ces gars-là avaient préparé la relève et le premier truc qu'ils ont fait entendre c'est la Marseillaise. On n'avait pas entendu depuis 50 mois la Marseillaise et sur cette Marseillaise il y a un gars qui s'appelait Pierre Crénès, qui est un remarquable reporter de radio, et qui a dit, ici, la radio nationale française. À peu près ça, voilà, c'est tout. Et c'est là qu'est née cette radio. Mais ensuite, il y a eu, presque aussitôt, tout un foyer de recherche, de création, on s'interrogeait beaucoup sur l'écriture radiophonique à cette époque-là. On a écrit des pièces de théâtre, on prenait ça très très au sérieux. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont venus travailler là, Tardieu, Vladimir Porcher, je crois que c'est ça. Enfin, beaucoup de gens sont venus là et ça a donné tout le côté écriture radiophonique qui s'est prolongé. Ici, c'est le lieu le la première fois, le premier festival Longueur d'onde, c'était avec Yann Parentoen. J'ai travaillé pendant 8 ans avec lui. Hein. Il y a toute une histoire qui a continué, qui passe ici, qui arrive ici.
Quel est votre rapport à la critique ?
Blaise Andrard disait que la critique est aussi stupide que l'espéranto. Je critique, on est critiqué, je trouve que c'est parfois utile, c'est parfois cruel, c'est parfois injuste. Il faut faire très attention à la critique quand ça nous atteint affectivement. Parfois, on accorde trop d'importance à ce qui nous atteint affectivement. Mais voilà, on est ainsi fait. Mais il n'y en a pas assez hein, pour la radio. La radio, la nôtre, France Inter, n'est pas assez critiquée. Voilà une radio qui a 5 millions d'auditeurs chaque jour. On peut étendre ce que je dis à Radio France, 14 millions d'auditeurs qui chaque jour se rendent sur qui sont à l'écoute d'une des radios de Radio France. C'est donc une entreprise culturelle énorme qui fabrique l'opinion, qui agite énormément de choses dans l'information, dans l'éducation, dans la distraction. Et tout ça est très très important. Il n'y a pas de critique. Ça va directement dans les moelles épinières, alors que ça trimballe tout un tas de formes idéologiques de toutes sortes et tout ça mérite d'être critiqué, devrait être critiqué. On a sur ces radios des critiques, puisque vous parliez de critiques, d'un livre, d'un film qui va peut-être faire 100 000 entrées, mais une radio qui fait 5 millions d'auditeurs par jour n'a pas de critique, ni de l'extérieur, de la part des autres médias ou de la part des intellectuels dont c'est le boulot, ni à l'intérieur non plus. Alors on fait des émissions, là il y a un problème, là il y a un très très gros problème. Les auditeurs pensent que c'est normal, pensent que c'est comme ça, il y a une sorte d'évidence comme ça, et leur sens critique n'est pas assez stimulé. Et ça, c'est un phénomène que je trouve préoccupant.
Il vous reste une dernière interview à faire. Laquelle faites-vous ?
Avant quoi ? Ah, avant d'arrêter de faire des interviews. Oh, qui j'aurais envie d'interviewer ? À la fin, j'aimerais bien m'interviewer moi-même. Mais ça durerait plusieurs années, quoi.
Voilà. Merci beaucoup.